Il est 23h30 à Paris et Kinshasa, 22h30, temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Kouadio.
Bonsoir à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, retour au calme à Walikale Centre. Mais la situation reste toujours confuse dans cette ville de l'Est, tombée aux mains de l'AFC M23 jeudi dernier. Le mouvement avait annoncé son retrait de la localité du Nord Kivu samedi, un désengagement qui reste encore incertain. Nous irons ensuite au Sénégal où le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'opposition, était élu dès le premier tour de la présidentielle sur la promesse d'une rupture systémique. Un an après, où en est cette promesse? Élément de réponse à suivre. Et puis en Guinée, 8 mois après le verdict du procès des auteurs du massacre du 28 septembre 2009, les victimes attendent toujours réparation. Les accusés avaient été condamnés à leur verser plus de 19 milliards de francs guinéens. Un RDC calme relatif donc ce dimanche à Walikale Centre. La ville du Nord est sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23 depuis jeudi. Le groupe avait même annoncé son retrait samedi, mais hier, ces éléments étaient toujours en ville, selon plusieurs témoins. Le récit de François Mazet.
Après 3 jours de tirs et de bombardements récurrents, la journée de dimanche était celle de l'accalmie à Walikale Centre. Alors que les troupes congolaises sont présentes dans les zones environnantes, le chef-lieu du territoire éponyme demeure sous le contrôle des hommes de l'AFC M23. C'est ce qu'ont dit des personnes jointes sur place par RFI, comme cet habitant qui raconte les difficultés de ravitaillement.
Nous avons du mal à accéder à l'eau potable, c'est trop alarmant. Les routes sont dévastées, les maisons sont pillées, les boutiques ont été pillées partout. Les populations vivent des moments très très difficiles ici à Walikale.
Cette situation délicate a fait réagir certains acteurs politiques à Kinshasa. Le député national Michel Moto Mouima, membre de la majorité, a saisi ce week-end de la chambre basse du Parlement pour dépêcher une mission humanitaire d'urgence.
Il y a eu un mouvement de masse de déplacement de population. Une bonne partie est rentrée dans la brousse. Et là, nous comprenons que les conditions de vie sont très difficiles. Et nous estimons à plus ou moins 20 000 ménages en débandade, sans aucune assistance sanitaire et il manque de tout.
Après un dimanche de statu quo, c'est une semaine d'incertitude qui débute à Walikale.
François Mazet, puis en Centrafrique, le collectif des avocats des frères de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra et des proches d'Armel Sayo dénoncent des violations de leurs droits. Arrêté en janvier dernier au Cameroun, Armel Sayo, ex-ministre et chef rebelle, avait menacé le pouvoir, menace qui avait entraîné une série d'arrestations à Bangui. Cette semaine, deux frères de l'ex-premier ministre Henri-Marie Dondra ont aussi été arrêtés pour tentative de coup d'État. Depuis, ils n'ont pas eu accès à leurs avocats. Lors d'une conférence de presse à Bangui, le collectif a dénoncé ces atteintes aux droits des prévenus. Réaction de Maître Nicolas Tiangai, l'un de leurs avocats.
Dès qu'une personne est arrêtée, elle a droit à un avocat. Cette personne a droit à la visite des médecins et elle a droit à la visite de sa famille. Malheureusement, c'est ce qui ne s'est pas passé puisque depuis 2 mois, les avocats n'ont pas pu avoir accès à Sayo. Les Sayo, c'est-à-dire frères et sœurs de Armel Sayo, il en est de même aussi pour les frères d'Andra depuis 48 heures. L'intérêt pour nous de la défense, c'est d'avoir accès au dossier pénal. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les pièces à conviction? Puisqu'on nous parle de bouteilles de whisky, on nous parle également de cigares, est-ce que ces pièces à conviction ont été saisies et placées sous scellé? Et comment ça s'est passé? Puisque souvent, les personnes sont interrogées en l'absence de leurs avocats. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Quels que soient les crimes qui peuvent être commis, les gens ont le droit d'être défendus. Ils ont droit à un procès équitable, à une défense capable de défendre leurs intérêts.
Et puis 6 policiers kenyans ont été tués par des combattants islamistes radicaux Shebab ce dimanche. L'assaut des Shebab a visé un camp de réservistes de la police kenyane près de la frontière avec la Somalie. C'est ce qu'indique le porte-parole de la police qui précise que 4 personnes ont été blessées et 2 assaillants tués et un autre grièvement blessé. Pour rappel, les Shebab combattent depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral de Somalie et leurs menaces s'est intensifiée ces derniers mois. Au Soudan, 3 civils dont 2 enfants ont été tués ce dimanche dans un bombardement à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, la capitale. Les bombardements les plus violents de ces derniers mois sont attribués aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Ces frappes interviennent au lendemain d'avancées significatives de l'armée dans la capitale. Elle a notamment repris le contrôle du palais présidentiel et de plusieurs bâtiments symboliques, dont la Banque centrale et le Musée national. Depuis avril 2023, la guerre qui oppose les 2 généraux rivaux a fait des dizaines de milliers de morts. Au Sénégal, il y a un an, un candidat de l'opposition accédait à la magistrature suprême. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye était élu dès le premier tour de la présidentielle. Un véritable plébiscite pour le projet du PASTEF, son parti, et la promesse d'une rupture systémique. Celle de construire un Sénégal nouveau après 12 ans de pouvoir de Macky Sall. Un an après, qu'en est-il ? Élément de réponse avec Léa Lisa Vesterov.
Élu avec la promesse de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, la nouvelle équipe au pouvoir a très vite lancé une série d'audits. Même si certains, comme ceux sur les contrats miniers et pétroliers, tardent à donner des résultats, l'audit des finances publiques sur les 5 dernières années représente un marqueur de la bonne gouvernance et un symbole de la transparence revendiquée par les nouvelles autorités. Dans la même veine, deux institutions jugées trop budgétivores ont également été supprimées. Des assises de la justice avec la société civile ont été organisées dans une démarche qui se veut participative. Mais un an après être arrivé au pouvoir, les analystes pointent aussi une certaine lenteur dans les prises de décision du gouvernement. Les recommandations des assises de la justice, par exemple, n'ont pas encore été appliquées. Après 12 mois au pouvoir, le duo Diomaye-Sonko fait donc face à des critiques d'impuissance, face à des comptes publics dégradés, hérités de l'administration précédente. Avec une dette qui s'élève à près de 100% du PIB, les nouvelles autorités disposent pour l'heure d'une marge de manœuvre extrêmement limitée pour imprimer la rupture promise lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Léa Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Et puis notez que Aïb Daffé, secrétaire général du PASTEF, sera l'invité à Afrique ce lundi 24 mars. Il sera au micro de Christophe Boisbouvier à 6h45, heure de Paris. L'opposition togolaise a une nouvelle fois réaffirmé devant une foule rassemblée à Kassimé le rejet de la constitution qui instaure un régime parlementaire. Tour à tour, les responsables ont évoqué le processus non inclusif qui a abouti au changement de constitution et les ambiguïtés contenues dans ce nouveau texte fondamental. La nouvelle constitution est vivement critiquée par l'opposition et la société civile qui y voit un moyen pour l'actuel président Fornia Simbe, au pouvoir depuis 2005, de se maintenir indéfiniment à la tête de l'État. En Guinée, 8 mois après le verdict du procès des auteurs du massacre du 28 septembre 2009, les victimes attendent toujours réparation. Les accusés, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, qui dirigeait le pays à l'époque des faits, avaient été condamnés à verser plus de 19 milliards de francs guinéens aux victimes. Depuis, beaucoup d'entre elles sont décédées, d'autres sont marquées à vie par des blessures physiques ou psychologiques. Maître Alpha Amadou Desba est l'un des avocats des victimes.
Ça fait 8 mois que le verdict a été rendu. Malheureusement, nous n'avons pas à date obtenu une quelconque réparation parce que la plupart des personnes qui ont été condamnées sont pauvres. Celles qui ont les moyens, on n'a pas pu retrouver leurs biens. Donc, on n'a pas pu mettre en œuvre la procédure d'exécution de la décision qui a été rendue. C'est vrai, la décision n'a de valeur que si elle est exécutée. On ne peut pas dire qu'on a un grand espoir puisque l'État traîne les pas. À l'ouverture du procès, on nous avait parlé d'un montant de 19 milliards. On ne sait pas qu'est-ce que ce montant est devenu. Donc, on ne peut pas aujourd'hui être totalement pessimiste, mais on est mesuré dans l'optimisme que nous devons avoir. Donc, cette question de réparation incombe en premier lieu au gouvernement guinéen, même si des personnes ont été condamnées. Et c'est de sa responsabilité d'indemniser les victimes.
Un propos recueilli par Mouktar Ba. Et puis enfin, football, 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce dimanche après-midi, le Gabon a remis la pression sur les Ivoiriens, champions d'Afrique en titre, en prenant provisoirement la tête du groupe F. Les Panthères se sont imposés 2-1 au Kenya grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gabonais peuvent désormais attendre la sortie des éléphants demain soir à Abidjan face à la Gambie. Le sélectionneur des Panthères, Thierry Mouyouma, satisfait du carton plein réalisé par ses joueurs.
We wanted to win. And then we said if you cannot win,
nous voulions gagner, ou alors au moins ramener un point si on ne pouvait pas décrocher la victoire. Heureusement pour nous, on l'a emporté. Donc nous sommes contents car les qualifications pour la Coupe du Monde sont difficiles. Et puis depuis que nous avons commencé, c'était la première fois que l'on jouait dans un stade plein parce que, comme vous le savez, beaucoup d'équipes du groupe ne peuvent pas disputer leurs matchs à domicile. Cette fois, le stade était vraiment bien rempli et nous avons apprécié cela. Je tiens d'ailleurs à remercier les supporters kényans qui étaient derrière leur équipe tout en nous respectant beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment une victoire importante pour nous.
Voilà, c'est sur la satisfaction du sélectionneur des Panthères, Thierry Mouyouma, que s'achève cette édition d'Afrique Soir, alors qu'il est 23h40 ici à Paris.